Social Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, le Social Club ne dure qu'une heure. Je suis entouré de l'économiste Daniel Cohen, dont le nouvel essai porte un joli titre, Le monde est clos et le désir infini, et l'historien Philippe Fabry, qui nous propose une histoire du siècle à venir. On va parler d'avenir ce soir et depuis que nous sommes au 21e siècle, j'ai l'impression, je ne suis pas le seul, que notre rapport à l'avenir a changé. Passé l'euphorie des années 90 sur la fin de l'histoire, le triomphe de la démocratie et de l'économie de marché, l'avenir aujourd'hui nous fait beaucoup plus peur, il est devenu anxiogène. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi, Daniel Cohen ?
Oui, tout à fait. L'idée de progrès qui est en général associée aux nouvelles technologies quand elles apparaissent, on a eu l'électricité au 20e siècle, là c'était vraiment senti comme un moment de progrès. On voyait que les conditions de vie allaient changer, indépendamment même de ce qui allait se passer à l'usine. Aujourd'hui, le numérique a créé cette première bouffée d'enthousiasme. Vous avez raison, dans les années 90, quand Internet commence à se présenter au monde, on se dit c'est formidable, on va pouvoir communiquer partout. Et c'est progressivement en train de se rétrécir. Le monde n'est pas si infini que ça à l'heure du numérique. On a plutôt l'impression qu'il se rétrécit et le progrès, en ce sens-là, apparaît aujourd'hui davantage comme une menace que comme un espoir.
Et vous, Philippe Fabry ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'ajouterais que l'avenir est anxiogène, d'autant plus qu'on refuse souvent de le regarder dans une société où le divertissement est de plus en plus massifié. Disons qu'à partir des années 60, on est passé à une société d'abondance en matière de nourriture, d'électricité. À partir des années 2000, déjà la fin des années 90, c'est l'abondance du divertissement, la TNT, les chaînes de vidéos à la demande qui font qu'on a envie de profiter de toutes ces choses-là et que la moindre indice que l'avenir pourrait nous en empêcher et peut-être encore plus terrifiante qu'auparavant.
À part ça, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau depuis le début des années 2000 et qu'est-ce qui est en train de disparaître ? Ce sont deux questions que je pose généralement. Et Daniel Cohen, je crois que vous aviez quelques réponses.
Oui, j'avais une réponse qui est tout à fait dans l'axe de la question, enfin de la réponse que vous apportiez, en essayant d'y réfléchir. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est apparu de neuf dans le domaine culturel ? J'ai pensé, peut-être un peu bêtement, à la série télé. La série Game of Thrones, Homeland, au début il y avait 24 heures chrono et je crois que ça répond exactement à ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire le besoin de recréer de l'addiction. Le point essentiel de la série relativement à ce qu'on était habitué à voir, le film du dimanche soir, etc., c'est que ça nous met dans un rapport scientifiquement addictif. C'est pas addictif parce que c'est bien, c'est fait pour être addictif. On a plein de personnages, au moment où une histoire est en train de se dénouer, elle s'arrête pour qu'on passe à une autre, pour qu'on soit toujours en suspens, en haleine. Donc oui, à cette heure où les supports se multiplient par mille, il faut retrouver de l'addiction pour pouvoir tenir le téléspectateur, celui qui regarde ce support-là. Est véritablement attaché à cette série, c'est quelque chose qui devient, je crois, un phénomène de société. On passe d'une série à une autre et ça ne finit jamais.
Et qu'est-ce qui est en train de disparaître ?
Eh bien, le symétrique, ce que ça a remplacé, c'est-à-dire la télévision dans le salon, qu'on regarde plus ou moins en famille, tout ça, ça n'existe plus. Chacun est derrière son support, sa série. Le sociologue Putnam, célèbre pour ses écrits sur le déclin de la communauté américaine, disait « Qu'est-ce qui a changé dans notre société dans les années 60 qui fait qu'elle soit devenue plus individualiste ? Qui fait qu'on n'est plus de club de bridge, de club de bowling, qu'on va jouer tout seul au bowling, par exemple ?» C'est le titre de son livre « Bowling Alone ». Et il disait « C'est la télévision qui, tout d'un coup, a fait que les gens pouvaient rester chez eux sans avoir à sortir pour rencontrer les autres. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que Putnam lui-même n'imaginait pas un deuxième acte dans ce chapitre-là qui nous amène encore plus loin dans l'éparpillement de ce qui, à l'époque, restait encore un lieu familial.
Quelque chose à ajouter, Philippe Fabry?
Alors simplement que c'est véritablement la massification en plus qui est apparue. Des séries, on en connaissait très peu. Il y en avait de temps en temps. Il y en avait comme Dallas, par exemple, qui ont été les premières grandes et qui ont eu beaucoup de succès. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a 15-20 Dallas qui sortent chaque année et que ça nous immobilise énormément et ça a même tendance à absorber la vie sociale des gens. Et parallèlement, l'apparition de... Je pense que on a aussi des retours en arrière, c'est-à-dire au plan des choses qui disparaissent. L'anonymat qui était apparu du fait de la... statistiquement, la croissance de la taille des communautés au 19e et 20e siècle est compensée aujourd'hui par le fait qu'on dit qu'Internet a fait du monde un village, peut-être pas un village, mais il a tendance à refaire des pays, des petites cités.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Philippe Fabry, vous êtes historien du droit, des institutions et des idées politiques. Vous êtes jeune, hein, je ne vous ai pas demandé votre âge, mais vous avez l'air jeune.
J'ai 31 ans.
Vous avez 31 ans et vous publiez une histoire du siècle à venir, rien moins qu'une histoire du siècle à venir aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, vous dites qu'il y a une symétrie réelle entre l'histoire antique et l'histoire mondiale depuis la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait les mettre l'un en face de l'autre, ce serait comme un miroir.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que si on prend l'histoire des cités grecques antiques que les gens connaissent, Athènes, Sparte, on retrouve l'histoire de l'Europe depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Si on met en parallèle l'histoire des États-Unis d'Amérique avec celle de la Rome antique, on voit également le parallèle. Et un parallèle peut-être un petit peu plus original, si on compare l'histoire du judaïsme antique à partir de Moïse jusqu'à la destruction du Temple et la diaspora forcée par les Romains, et bien on retrouve, même si elle n'est pas terminée en ce qui concerne les musulmans, on retrouve le schéma de l'histoire islamique depuis Mahomet jusqu'à aujourd'hui.
Alors, comment ça vous est venu, ça ?
Alors, ça m'est...
Parce que c'est très détaillé dans votre livre, hein. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails de ce que vous expliquez, mais ce principe de miroir, cette symétrie est extrêmement détaillée. À un moment, il a bien dû y avoir un déclic.
Alors, il y a eu un déclic, effectivement. C'était, je crois que j'ai commencé à travailler dessus il y a une douzaine d'années. J'avais lu dans une revue ce que disait Albert Thibaudet de la Première Guerre mondiale, que lui avait vécu. Il avait écrit un livre qui s'appelait La campagne avec Thucydide. Et Thucydide lui racontait la guerre du Péloponnèse, entre Sparte et Athènes. Et il expliquait finalement ce qu'ont vécu les Grecs avant nous, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis j'avais une professeure de latin à l'époque, qui nous faisait des cours de civilisation latine, qui nous avait expliqué que les Romains avaient la vision des Grecs, qu'un petit peu la vision des Américains vis-à-vis de nous. C'était l'époque de la guerre en Irak. Donc elle nous expliquait que les Romains considéraient les Grecs un petit peu comme efféminés et que les Grecs considéraient les Romains comme des grosses brutes.
Et donc, un peu le rapport entre les Américains et l'Europe.
Totalement. Et alors disons que ça m'a interrogé. Et comme je suis de nature à poursuivre dès que j'ai une petite idée, j'ai fouillé et je me suis aperçu qu'on pouvait poursuivre le parallèle bien plus loin que ce que je pensais, au point que ce soit systématique.
Alors il y a une symétrie, dites-vous, entre l'histoire de la Grèce antique et l'histoire de l'Europe. Sparte, ce serait la Prusse. En fait, ou plutôt la Prusse, ce serait Sparte.
Voilà, on retrouve exactement le même schéma, la même histoire. Alors, je ne peux pas en faire le détail ici.
Non, la guerre du Péloponnèse, en fait, c'est les deux guerres mondiales.
Voilà.
Hein, c'est notre guerre de 30 ans à nous. On pourrait le dire aussi comme ça. Alors, votre parallèle entre la Rome antique et l'Amérique, évidemment, on ne cesse d'attendre la chute de l'Empire américain en référence à la chute de l'Empire romain. Et d'ailleurs, vous dites que c'est exactement la même chose et que dans ce que vous imaginez, c'est que l'Amérique se dissoudra dans sa propre puissance comme c'est arrivé aux Romains.
Alors je pense effectivement que c'est ce qui va se passer, mais que contrairement à ce qu'on entend souvent, l'Empire américain n'est pas en déclin mais n'a pas encore atteint son apogée.
Alors effectivement, mais ça on en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'Empire. Mais restons un moment sur ce parallèle que vous faites entre le judaïsme à l'époque s'élevait contre les païens, contre Rome, et vous faites donc ce parallèle avec l'islam aujourd'hui et l'Occident. Vous dites au fond que les terroristes arabo-musulmans, c'était les zélotes à l'époque.
Voilà, parce que les zélotes, c'est quelque chose qu'on ignore souvent. Souvent, quand on pense aux zélotes, il y avait eu une série qui était dans les années 80, je crois, avec Peter O'Toole, Masada, hein, qui décrivait le combat, la résistance des zélotes à l'envahisseur romain. Mais on ignore souvent que, outre le combat qu'il y a eu en Judée même, il y avait des problèmes avec les communautés juives partout dans le pourtour méditerranéen où elles étaient installées. À Rome, l'empereur Claude, dans les années 40, a fait expulser la communauté juive. Et plus tard, part, il y a eu des massacres de citoyens grecs à Chypre par des zélotes juifs qui reprochaient qui voulaient convertir les Grecs païens. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que quand on voit le peuple juif aujourd'hui, c'est une toute petite minorité. Ça doit faire un être humain sur 300 ou 400. À l'époque, dans le monde romain, les juifs, c'était un être humain sur 20.
Évidemment. Et alors pour vous, il y a des cycles. Hein. Ils se comportent, ces cycles, comme des structures stables et périodiques. Par exemple, on va donner un seul exemple, une civilisation naît sous l'influence d'une autre civilisation, comme l'Amérique est née sous l'influence de la civilisation européenne. Elle finit par la surpasser et la dominer, comme l'Amérique a fini par surpasser l'Europe et la dominer. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Rome et la Grèce.
Voilà, tout à fait. En plus, les choses, ce qui est intéressant, c'est que les choses peuvent être poussées jusqu'à un certain niveau de détail, puisqu'on s'aperçoit, par exemple, que les problèmes que peuvent avoir l'Europe avec la Russie actuellement se retrouvent dans les problèmes qu'avaient les Grecs avec la Macédoine, et les problèmes qu'ont les Américains avec la Russie répondent aux problèmes que la Macédoine avait avec Rome. C'est-à-dire que c'est vraiment un système.
Mais alors, Philippe Fabry, moi, la question que je me suis posée en vous lisant, c'est très convaincant. Hein, vous êtes extrêmement bien documenté, donc on peut rien dire, hein, quand on vous lit. Mais pourquoi? C'est ma question presque métaphysique. Pourquoi se passerait-il toujours la même chose? C'est-à-dire, je comprends que c'est plus confortable, mais en même temps, intellectuellement, c'est terriblement décevant.
Alors c'est un peu décevant, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à voir le futur d'une manière enthousiaste ou d'une manière curieuse à partir du moment où j'ai l'impression de savoir ce qui va se passer.
Oui, d'ailleurs vous allez nous le raconter,
voilà,
hein, tout à l'heure.
C'est pas forcément dans le détail.
Il va se passer ce qui s'est déjà passé.
Voilà, ce qui s'est déjà passé, et c'est vrai que métaphysiquement ça peut poser des questions, mais à partir du moment où on n'a pas changé d'espèce humaine, est-ce qu'il est bien étonnant que les mêmes causes produisent les mêmes effets?
Mais ça voudrait dire que les civilisations elles-mêmes répètent forcément passent par les mêmes états. Successivement et aboutissent au fond au même résultat.
Alors ça, c'est quelque chose de très très intéressant, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'il peut y avoir derrière une sorte de... les mêmes mécaniques mathématiques, on va dire, qui se reproduisent dans l'apparition du vivant. J'en parle brièvement dans le livre, et donc ce sont c'est pour moi un champ d'étude qui mériterait d'être étudié, sinon on en reste à la croyance que les choses se répètent parce qu'elles se répètent. J'essaie d'aller un petit peu plus loin.
Votre livre s'intitule Histoire du siècle à venir, mais dedans vous vous amusez à prévoir les deux prochains millénaires. Vous pouvez le faire après tout, puisqu'on a déjà vécu deux millénaires derrière nous, on regarde et hop, par effet miroir, on sait à peu près ce qui va se passer. Voilà. C'est pas aussi simple que ça, mais
disons que c'est un exercice amusant. Alors j'avais envie de le faire avant tout pour m'amuser et aussi pour amuser le lecteur. C'est moins certain, parce que plus on va loin, plus les entités qui seront
concernées sont différentes. Vous en parlez des aléas.
Et je parle des aléas, effectivement, mais globalement, je pense qu'il y aura peut-être des changements d'entités, mais que les choses qui sont prévues se passeront à peu près comme ça.
Daniel Cohen, on a beaucoup parlé des cycles dans l'histoire économique. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez au cycle? Alors que ce soit au cycle économique ou au cycle historique.
Oui, moi j'adore ce genre de comparaison. Dans ce livre-ci, je suis un
dans autre. Le vôtre, vous parlez, dans le monde éclos et le désir infini.
Oui,
vous y faites allusion, bien sûr.
Oui, je fais un autre parallèle, c'est celui du destin de Rome et de l'Empire chinois. On a effectivement plusieurs grilles de comparaison, Sparte et Athènes, c'est très intéressant. Et en effet, on peut se dire que Sparte aujourd'hui, c'est la Chine, que Athènes, c'est les États-Unis. On peut répéter toujours ce cycle qui est le conflit entre, on va dire, la démocratie rayonnante et un peu corrompue, et puis les Spartiates qui, comme ça, veulent préserver à tout prix l'unité de la cité.
Lui, mais les Spartiates, pour lui, c'est la Prusse.
C'est la Prusse. Non, mais bien sûr, ce cycle se répète à nouveau, je crois, si on peut suivre ce raisonnement. La Prusse était Sparte face à l'Angleterre qui était Athènes, et on est peut-être reparti pour un tour.
Le mécanisme peut être vu effectivement comme un petit peu fractal, c'est-à-dire que même dans des gros cycles, on en retrouve des plus petits.
Voilà. Mais il y a un autre schéma, donc je suis tout à fait d'accord, mais il y a un autre schéma, c'est Rome et la Chine relativement à leurs propres barbares. Rome a été envahie par ces barbares comme la Chine l'a été. La différence entre les deux, c'est que la Chine a absorbé ces barbares et a reconstitué son empire grâce à ce travail presque d'éponge qu'elle a pu faire sur les barbares. C'était le pari de Rome, de faire venir les barbares, y compris comme généraux de leurs propres armées, mais ça n'a pas marché. L'empire s'est cassé et ne s'est jamais reconstitué en Europe. Et en effet, c'est la promesse de la reconstitution de l'empire qui explique ces guerres civiles, ces guerres entre les nations, entre les Européens. Pour revenir au monde moderne, je crois qu'en effet, il y a quelque chose de cette nature qui est en train de se jouer, avec pour le coup, je crois, une incertitude radicale. Est-ce que l'Amérique va absorber comme une éponge mensonge les élites barbares du monde entier, c'est-à-dire est-ce que les Chinois qui viennent à Harvard ou à Stanford vont en réalité s'américaniser et transmettre la culture de l'Empire dans leur propre cité, ou est-ce que l'Empire chinois va se raidir pour reconstituer à la façon de Sparte contre Athènes son identité dans la rivalité. Et je crois qu'en effet, on a les vieux schémas, mais l'histoire est aussi indécise que pouvait l'être le devenir de la Chine et celle de Rome, comparées relativement l'une à l'autre.
Philippe Fabry, effectivement, fait plusieurs scénarios possibles. On en reparlera tout à l'heure.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Philippe Fabry, revenons à l'histoire du siècle à venir qui vient de paraître aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment? Parce que là, vous vous retrouvez, quand vous nous racontez l'histoire du siècle à venir, vous dites bien, il faut pas se tromper, où est-ce qu'on en est du cycle? Évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est du cycle aujourd'hui, d'après vous?
Alors, où est-ce qu'on en est du cycle? Je dirais, en fait, ça dépend des questions. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que ces cycles se calent les uns sur les autres, mais ils sont pas forcément au même moment. Si on regarde le problème de l'Europe entre la Russie et les États-Unis, je dirais qu'on est au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est au moment où on avait une... Ça, c'est intéressant, c'est assez peu connu du grand public. Il y avait les cités grecques, comme les nations européennes, après s'être fait la guerre pendant très longtemps, ont décidé de s'unir en confédération, ce qu'on appelait la Ligue Achéenne. Il y avait aussi la Ligue Étolienne qui était plus petite, mais surtout la Ligue Achéenne. Cette Ligue Achéenne qui s'est donné des institutions communes, qui s'est donné une monnaie commune.
Comme l'UE.
Et qui a profité du fait que la Macédoine était en régression pour s'étendre vers le nord à l'époque, puisque la Macédoine était au nord, alors que nous, l'URSS, était à l'est. Seulement, ça a posé des problèmes, parce que les élites de cette confédération achéenne avaient tendance à être plutôt pro-romaines, alors que le peuple, lui, avait tendance à être anti-romain et réclamait l'annulation des dettes, etc. Enfin, c'était Syriza, Podemos. C'est amusant de voir que les populismes qu'on voit naître, qui sont souvent anti-américains en Europe et pro-russes, les populismes grecs étaient anti-romains et pro-macédoniens. Et ça s'est terminé par une grande guerre, qui est une guerre à l'échelle méditerranéenne, au cours de laquelle Rome a définitivement écrasé Carthage d'un côté et la Macédoine, puisque tous les deux étaient alliés. Et ça s'est plutôt mal terminé pour la Grèce, parce que cette confédération...
La Grèce, c'est l'Europe. Hein.
Pour l'Europe, si vous voulez, l'équivalent, ce serait qu'une partie des pays d'Europe sombre vraiment dans le populisme, mais le populisme assez violent, hein, tendance guerre civile, et que si les États-Unis font comme Rome, ils interviennent et qu'ils se vengent assez durement sur les pays qui auront trahi leur alliance, hein, avant d'écraser la Macédoine, donc en l'occurrence, ce serait la Russie. Donc ça se terminerait comme ça. Après, pour ce qui est l'opposition entre le monde occidental, on va dire, et le monde musulman. Là, c'est un phénomène qui est beaucoup plus tardif dans l'Antiquité, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, même du début du 2e siècle après Jésus-Christ, dans ce qu'on a appelé la guerre de Kitos, qui était une guerre qui a opposé, qui a constitué un soulèvement général des Juifs dans toute la partie orientale de la Méditerranée, c'est-à-dire en Égypte, en Palestine, en Turquie et dans les îles grecques.
Contre l'Empire romain.
Contre l'Empire romain, qui les a écrasés très durement. Puisque il avait détruit leur temple quelques 50 ans avant, et il a éliminé à peu près un tiers de la population juive qui existait dans ces régions-là, c'est-à-dire c'est l'équivalent, humainement, c'est l'équivalent de la Shoah, hein, proportionnellement à l'époque. Et donc si on approche de quelque chose comme ça, avec un élément déclencheur qui serait des attentats graves, que ce soit directement contre les États-Unis ou contre l'Europe, ça pourrait effectivement avoir des répercussions très très inquiétantes et avec un bilan très lourd du côté des populations musulmanes et surtout des risques de pogroms et d'épuration ethnique en Europe si les Européens réagissent comme ont réagi les Grecs à l'époque.
Si, pour en revenir à l'Amérique, l'Amérique c'est Rome, hein, donc si on fait la symétrie avec Rome, ce que vous faites dans votre livre, Philippe Fabry, vous prévoyez pour l'Amérique une sorte de totalitarisme impérial, on va dire, hein, avec stagnation du progrès technique, parce que c'est ce qui s'est passé à Rome, et puis évidemment avant de s'effondrer par morceaux, hein, l'Empire américain pourrait régner sur le monde, y compris sur la Chine, mais ensuite il s'effondrerait par morceaux.
Voilà, alors je pense que vu que les choses ont tendance à aller un peu plus vite, hein, si on mesure le temps, le cycle américain, on va dire, est un petit peu plus rapide que celui romain, même s'il passe par les mêmes étapes, mais à l'horizon 2030, on pourrait avoir un conflit à l'intérieur des États-Unis qui mène effectivement ce qui serait d'abord une dictature militaire, ce qui était l'Empire à Rome. Et on a des prémices de ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y avait eu cette affaire du Ranch Bundy, où ce monsieur qui refusait de payer ses impôts, je crois que c'était dans le Nevada, a réussi à faire venir pour l'aider 300 miliciens américains armés de fusils d'assaut qui ont fait face pendant quelques jours à des agents du gouvernement américain, eux-mêmes armés de fusils d'assaut. Alors heureusement, ça n'est pas parti à la fusillade, mais ça aurait pu. Et avec les tensions qui sont en train de naître de plus en plus et des fractures notamment qu'on voit de plus en plus dures entre gauche et droite dans le clivage américain au fur et à mesure des élections présidentielles américaines, et un clivage surtout qui auparavant avait tendance à s'effacer passer l'élection et qui maintenant se maintient, hein, ça peut aboutir à une guerre civile à l'échelle américaine une fois que l'Amérique se sera débarrassée de ses ennemis, puisque les ennemis ont tendance à fédérer un État qui n'a plus d'ennemis a tendance à sombrer dans la guerre civile.
Philippe Fabry, si l'histoire c'est véritablement cet éternel recommencement dont vous nous parlez dans votre livre, à ce moment-là, qu'en sera-t-il du futur Moyen-Âge, le jour où Rome s'est effondré, on s'est dit bah, c'est le début du Moyen-Âge. Alors vous le voyez comment, vous, le Moyen-Âge du futur?
Alors le Moyen-Âge du futur, je le vois
le
comme...
Le
jour où l'Amérique s'effondrera, bah, toujours pareil, un petit peu comme la façon dont Rome s'est effondré, c'est-à-dire on aura un retour à des structures de pouvoir qui seront essentiellement locales, avec des barons locaux, un système féodal, un petit peu, si vous voulez, comme ce qui s'est passé à la chute de l'URSS, avec des oligarques qui ont privatisé, sauf qu'il n'y aura pas de retour impérial, de reprise en ordre comme a pu le faire Poutine. Et donc on irait plutôt vers une économie locale. Et ce qui est plus inquiétant et plus dommageable, c'est un effondrement des voies de communication, puisqu'il n'y a plus de sécurité mondiale, donc il n'y a plus d'échange. On revient à des productions très locales. Donc aussi un blocage du progrès technique, parce que le progrès technique, les humains, c'est comme les ordinateurs. Si on les met en réseau, ils sont plus efficaces. Hein. Donc si on coupe les voies entre eux, c'est plus difficile de dialoguer et donc d'innover. Donc ce qui se passera probablement, c'est justement une stagnation technologique en premier temps, probablement une régression technologique par endroit, mais aussi une transformation de technologies existantes qui seront maintenues et qui deviendront des technologies de bricolage. Il n'est pas impossible qu'on se transmette des ordinateurs pendant plusieurs générations en les rapiéçant comme avant on le faisait avec les charrues.
Daniel Cohen, vous êtes beaucoup plus optimiste, hein, vous. Votre livre, Le Monde des Clous et le Désir Infini. A priori, quand on lit le titre, on se dit, oh là là, ça va pas être gay. Mais si, en fait, vous, c'est très gay.
Non, moi, pour continuer sur ce que disait Philippe, je comprends tout à fait ce qu'il dit de l'Amérique. Et en effet, on voit une société traversée par des tensions qu'elle n'arrive plus à maîtriser. Mais je crois que la menace pour le monde aujourd'hui, c'est est-ce que la Chine va suivre le même parcours que, on va dire, l'Allemagne dans les années 30. C'est une société qui est très fragile, elle est en pleine transition, dans une double transition. Et en lisant par exemple les écrits de Jean-Luc Domenac, qui a passé plusieurs années en Chine, il disait, mais pourquoi chaque semaine il y a des manifestations contre le Japon? Pourquoi ils insistent comme ça? Et il donne la réponse. Parce qu'ils veulent une issue au cas où ça ne marcherait pas. Si ça ne marchait pas économiquement, ils veulent pouvoir compter sur le nationalisme chinois en le réactivant constamment par des manifestations anti-japonaises. Je crois que là est la tension des peut-être seulement prochaines décennies.
Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission, plus courte que d'habitude, hein, Philippe Fabry. Histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles des civilisations? C'est paru chez Jean-Cyril Godefroy. Et Daniel Cohen, Le Monde est clos et le désir infini, c'est paru chez Albin Michel. Nous, on se retrouve lundi. Dans un instant, c'est la demi-finale de l'Euro de basket France-Espagne.